À Tire-d'Aile, une rubrique consacrée à l'écologie et plus spécialement à l'ornithologie. Cette rubrique, nous la devons à l'ornithologue Frédéric Mallaire en partenariat avec la section Île-de-France de la Ligue pour la protection des oiseaux. Une belle collaboration donc entre la LPO et l'Alpha 10-13. Tous les mois, on découvre ensemble un peu plus le monde passionnant des oiseaux et le travail essentiel de la LPO. Et dans cette 7e chronique, Frédéric Mallaire nous emmène à la découverte des différents nids d'oiseaux, des plus simples aux plus complexes. Du sol à peine gratté sur une falaise à la pelouse rase d'un îlot marin jusqu'aux cavités dans un arbre garni de copeaux en passant par un nid fait de branchages épais et un autre fait de racines entrelacées avec herbes, mousses et plumes, sans oublier les plus surprenants nids souterrains, nids couverts et nids faits à base de fibres de palmier ou de deux feuilles cousues entre elles, les oiseaux, vous allez le voir, ne manquent pas d'ingéniosité lorsqu'il s'agit de construire leur nid. Alors écoutons tout de suite « À tire-d'aile », saison 1, épisode 7, « Les différents types de nids d'oiseaux », une chronique de Frédéric Mallaire de la LPO Île-de-France pour l'Alpha 10-13.
Le mois d'avril est sans doute le mois qui voit se construire le plus de nids, même si les hérons ont commencé de l'heure dès janvier et si certains merles de ville tentent parfois de le faire en décembre. Il y a de nombreuses sortes de nids, mais ils ont tous le même rôle. Accueillir les œufs et permettre leur couvaison par les adultes, puis le plus souvent, héberger les jeunes tout au long de leur croissance. C'est la signification du verbe nicher. Construire un nid, y pondre ses œufs, les couver et élever les jeunes. Je disais donc qu'il y avait de nombreux types de nids différents, du plus simple au plus complexe. Le plus simple, en fait, c'est rien du tout. On écarte quelques cailloux, quelques algues, on gratte un peu pour ameublir le sol, et ça fait l'affaire. C'est par exemple le cas du faucon pèlerin qui pond ses œufs sur un replat dans une falaise, du goéland qui va pondre sur la pelouse rase d'un îlot marin, ou du gravelot qui va le faire au pied d'une dune, sur une plage au risque de se faire piétiner par un vacancier. Autre cas minimaliste, utiliser un nid déjà construit ou creusé par une autre espèce. Le hibou moyen-duc utilise en général un vieux nid de corneille. La perruche à collier profite d'une ancienne cavité de pivert ou de piquet-pêche sans rien y ajouter. Et ne parlons pas du coucou qui va carrément squatter un nid construit et occupé par une autre espèce. Mais arrivons au cas le plus habituel. Le couple, en général à part à peu près égale, va construire un nid en forme de coupe, ce qui permet d'éviter que les œufs roulent et permet aussi de garder un peu de chaleur. Le partage des tâches varie d'une espèce à l'autre. Les deux collaborent, le mâle commence et la femelle termine, la femelle fait tout toute seule, ou inversement, c'est le mâle qui fait tout le boulot. L'extérieur du nid est en général plus grossier, mais plus solide, que l'intérieur, plus fin et délicat. Pour les gros nids, on peut donc y trouver des branches de quelques centimètres de diamètre. Ces nids peuvent devenir énormes quand le couple les réutilise en les rechargeant tous les ans. Certains nids de cigognes atteignent jusqu'à 2 mètres de haut et un poids de plusieurs centaines de kilos. L'extérieur des nids plus modestes est fait de brindilles et de racines entrelacées. L'intérieur est garni d'herbes, de mousse ou de plumes, ce qui le rend plus confortable. Une exception, le pigeon ramier. Son nid de brindilles, parfois bien lâche, n'est pas rembourré du tout et on peut parfois voir au travers. Qu'ils réussissent à conserver leurs deux œufs relève parfois du miracle. Les oiseaux qui creusent une cavité dans un arbre, comme les pics, font un matelas de copeaux pour accueillir leur progéniture. Mais les espèces qui utilisent une cavité déjà creusée, comme les mésanges, y construisent un véritable nid de mousse, d'herbe ou de plumes. Je viens de vous décrire les cas habituels. Passons maintenant à des cas plus originaux. Il y a les nids souterrains, comme ceux du martin-pêcheur ou de l'hirondelle de rivage, qui creusent un tunnel parfois d'un mètre de profondeur dans la rive d'un cours d'eau pour y déposer leurs œufs. Il y a aussi des nids en boule. Parfois bien étonnant, la mésange à longue queue utilise des toiles d'araignée pour agglomérer les mousses et les lichens qui donnent un camouflage idéal à son nid en forme de bourse remplie de plus de 2000 plumes qui vont abriter une dizaine d'œufs. Bien que plus grossier, le nid de la pie est aussi original. Il est couvert d'un toit qui protège les œufs et les jeunes des prédateurs. Cela lui donne un aspect de boule, perché souvent en haut d'un arbre. Le tisserin gendarme, espèce proche des moineaux, surtout répandu en Afrique mais aussi à La Réunion, construit des nids en boule avec des fibres de palmier qu'il va prendre une à une en saisissant dans son bec un fragment de palme et en s'envolant brusquement pour l'arracher. Quand ça ne marche pas, il retombe brutalement sur le palmier, mais il recommence jusqu'à ce que ça marche. La fauvette couturière, comme son nom l'indique, fait son nid en cousant ensemble deux feuilles d'un buisson. Pour cela, elle fait deux rangées de trous sur chaque feuille, autant de chaque côté, et elle les relie par des fils en toile d'araignée ou en fibre végétale. C'est à l'intérieur de cette enveloppe qu'elle va construire un petit nid en coupe. Certaines espèces font des nids collectifs. Une espèce de perruche sud-américaine qui s'est établie en Europe, la conure veuve, en construit à la base de la couronne des palmiers comme à Barcelone ou sur des poteaux et fils électriques comme à Bruxelles. Ils peuvent accueillir une dizaine de couples chacun. Mais chez le tisserin sociable, cela peut atteindre jusqu'à une centaine. On peut supposer que la raison est la sécurité qu'apporte le groupe. Les nids les plus fous sont sans doute ceux des oiseaux jardiniers de Nouvelle-Guinée ou d'Australie. Mais en fait, ce ne sont pas des nids. Ce sont plutôt des garçonnières que les mâles, adeptes de la polygamie, construisent et décorent pour attirer des femelles. En forme de berceau ou de tunnel de brindilles, ils les décorent de manière spectaculaire avec des objets de couleurs vives, cailloux, fleurs, coquillages, champignons, etc. Les femelles, en revanche, seront seules à construire le véritable nid. Autre cas extraordinaire, les mégapodes, oiseaux aux apparences de dindons vivant en Australie et en Indonésie, qui ont inventé les incubateurs artificiels. Ils construisent un tas de feuilles dont la fermentation va dégager la chaleur nécessaire à l'incubation des œufs qui y sont enfouis. Dans d'autres cas, ils utilisent la géothermie en creusant le sol près d'un volcan ou la chaleur du soleil en enfouissant leurs œufs dans le sable. Vous voyez, quand on s'intéresse à la nature, on n'est jamais au bout de ses surprises.
Et comme souvent, nous clôturons maintenant ce « À tire d'aile » par l'espèce du mois. Après nous avoir parlé de la fauvette à tête noire, Frédéric Maller nous parle ce mois-ci de deux espèces migratrices. L'une citadine, l'autre plus rurale.
À propos de nids, je n'ai pas évoqué les nids faits en boue séchée. Pour réparer cet oubli, je vais vous parler maintenant des deux espèces d'hirondelles qu'on peut voir dans nos villes et villages. L'hirondelle de fenêtre, et l'hirondelle rustique, autrefois appelée hirondelle de cheminée. La première est noire sur le dos et blanche sur le ventre, avec une tache blanche à la base de la queue. La seconde est bleu sombre sur le dos, crème sur le ventre avec la face rouge et la queue prolongée de deux filets de plusieurs centimètres de long. La première est plus commune en ville et la seconde est plus rurale. Mais toutes les deux sont migratrices car elles sont insectivores. Les plus précoces sont de retour depuis mars, mais le gros des troupes arrive en ce moment. Elles construisent toutes les deux un nid en boue fait de dizaines de petites boules de terre agglomérées. L'hirondelle de fenêtre l'accroche en général à l'extérieur d'un bâtiment, dans le coin d'une fenêtre, d'où son nom, sous l'avancée d'un toit, parfois sous un pont, voire dans un lampadaire. Son nid est en général un quart de sphère avec un trou d'envol à la taille exacte du corps d'une hirondelle pour empêcher un moineau de la squatter. L'hirondelle rustique accroche son nid, qui lui est ouvert sur tout le tour, à l'intérieur d'un bâtiment, assez souvent un corps de ferme ou d'écurie. Mais si une fenêtre reste ouverte dans une habitation, elle peut jeter son dévolu sur une pièce de la maison. Certains habitants, surpris mais respectueux des hirondelles, ont été parfois contraints de laisser la fenêtre ouverte toute la saison de reproduction. Les pontes ont lieu en général en avril pour l'hirondelle rustique et en mai-juin pour l'hirondelle de fenêtre. Et les jeunes s'envolent un peu plus d'un mois après. Cela laisse à certains parents le temps de faire une seconde couvée en été. Les jeunes les plus retardataires peuvent s'envoler en septembre. Les parents ne chôment pas pour nourrir leurs 4 ou 5 jeunes et ils viennent régulièrement s'accrocher au nid pour nourrir leur progéniture affamée. Leur régime alimentaire est essentiellement formé de ce qu'on appelle le plancton aérien. Ce sont tous les petits insectes et certaines araignées qui sont emportés en altitude par le vent. Elles peuvent aussi aller chasser au-dessus des étangs. Et quand le vent plaque les insectes au sol, elles vont effleurer la cime des arbres où il y a toujours quelques proies à glaner. Ce régime alimentaire très spécialisé les rend donc très vulnérables à la forte diminution du nombre d'insectes provoquée par un usage immodéré des insecticides. Il n'est donc pas étonnant qu'elles soient toutes les deux en recul notable en France. Moins 25% en une vingtaine d'années. La destruction des nids, sous prétexte de salissure qu'ils provoquent, est aussi une cause de diminution des hirondelles. Rappelons qu'il s'agit d'espèces protégées et donc que la destruction de leur nid, vide ou occupé, est passible de 3 ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Mais sans avoir besoin de menaces légales, on peut admettre que le plaisir de voir des hirondelles mérite bien quelques désagréments, sans parler du nombre de moustiques qu'elles consomment. À l'automne, elles se préparent à nous quitter et se rassemblent sur les fils électriques ou les roseaux. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, elles ne migrent pas en troupe dense. Elles voyagent plutôt en petits groupes lâches, en vol direct et le plus souvent silencieux. Les zones d'hivernage de l'hirondelle rustique sont principalement en Afrique tropicale, mais les hirondelles anglaises vont souvent jusqu'en Afrique du Sud, soit plus de 15 000 km aller-retour. Celles de l'hirondelle de fenêtre sont moins connues, mais sont situées aussi au sud du Sahara. Parfois, au cours des migrations, un accident climatique peut avoir des conséquences catastrophiques. Une neige précoce en automne bloque les cols alpestres et pyrénéens, ce qui peut provoquer la mort de milliers d'hirondelles incapables de trouver le passage et de se nourrir. Mais restons optimistes. En ce moment, c'est la période de leur arrivée sur les nids. Un bon moment pour repérer les colonies. Si vous voyez des hirondelles tourner dans votre quartier, c'est qu'elles doivent nicher pas trop loin. Explorez les rues pour trouver les hirondelles de fenêtre ou ciblez plus précisément les bâtiments de ferme pour les hirondelles rustiques. Quand vous aurez trouvé les nids, passez-y plusieurs fois dans la saison pour savoir combien sont vraiment occupés. Et transmettez vos données à l'Observatoire Hirondelle Martinet de la LPO Île-de-France. Cela nous permettra d'être prêts à intervenir en cas de chantier mettant en péril la colonie. Pour savoir exactement comment transmettre vos données, tapez dans un moteur de recherche les mots « Observatoire Hirondelle LPO IDF ». Et le premier lien qui apparaît vous y envoie. Merci de votre aide et à la prochaine. Et d'ici là, gardez les yeux et les oreilles grands ouverts.